Radio Okapi.
Le journal, Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Le président de la République s'est encore exprimé hier sur les causes de la montée de l'insécurité qui secoue l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi Tshilombo affirme que la difficulté de restaurer la paix à l'Est du pays, c'est le Rwanda. L'archevêque de la ville de Kinshasa s'est dit satisfait de l'évolution des préparatifs de l'accueil du pape François. Le cardinal Fridolin Ambongo l'a dit hier lors de la visite du site de Ndolo où le Saint-Père dira la messe papale. Notre invité, c'est Gratien Iratian. Ce député national qui est en vacances parlementaires à l'est de la RDC demande aux habitants de s'enrôler massivement. L'élu de Bounia appelle la CENI à corriger les erreurs enregistrées à l'ouest lors de l'enrôlement des électeurs à l'étape de l'est du pays. Madame, Messieurs, bonsoir. Au deuxième jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse, le président de la République s'est encore exprimé hier sur la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi Tshilombo qui répondait à une question d'une journaliste sur la difficulté de restaurer la paix à l'Est du pays a expliqué que le problème c'est le Rwanda. On l'écoute dans cet extrait choisi par Cynthia Bachizina Bizana.
Le problème que nous avons, c'est un très grand défi parce que on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans des ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda.
Le gouvernement congolais prend acte du refus répété des rebelles du M23 d'exécuter le plan de paix du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Déclaration faite aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dans un communiqué publié en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu. Christophe Lutundula Pala rappelle que selon la programmation établie par les chefs d'état-major généraux de l'EAC le 15 janvier 2023, les terroristes du M23 devaient quitter toutes les zones occupées en RDC. C'est là pour ainsi permettre le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones et le retour des populations à leur domicile. D'autres précisions avec vous, Alain Rongmouchinch.
Dans ce communiqué, le gouvernement congolais prend aussi acte du non-respect du Rwanda des engagements pris dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda et du ministre sommet de Luanda du 23 novembre 2022, ainsi que son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RDC. Il interpelle l'ONU, l'Union africaine, la communauté des pays d'Afrique de l'Est, la CIRGEL et les partenaires bilatéraux et leur demande de prendre leurs responsabilités, notamment en sanctionnant selon leurs mécanismes et règles propres les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier et de violer le droit international ainsi que les droits fondamentaux de l'homme à l'est de la RDC, poursuit le communiqué. Quoi qu'il en soit, tout en renouvelant son engagement dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et pour l'instauration d'une paix ainsi que d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs, le gouvernement de la RDC assumera toutes ses responsabilités constitutionnelles pour sauvegarder l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de l'État congolais. Il n'entend point faiblir ni transiger avec personne quant à ce, indique le communiqué.
Merci Alain Rongmouché. Je notais que la RDC est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens, comme l'avait affirmé le président Félix Tshisekedi Tshilombo le 20 septembre 2022 à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, conclut le communiqué. Repression de la marche pacifique contre les troupes de l'EAC ce mercredi à Goma au Nord Kivu. Les deux journalistes et les 6 militants des mouvements citoyens qui ont été interpellés par la police nationale ont été libérés après 3 heures de détention à l'inspection provinciale de la police. Freddy Ruvunangiza, correspondant de la Prunelle RDC Info, et Justin Kabumba de France 24 dans cette ville affirment avoir été brutalisés par des policiers. Explication de Billy Van Doutumba.
La police leur reproche d'avoir couvert une manifestation interdite par l'autorité urbaine. Après leur audition sur PV, tous ont été relaxés, affirme un journaliste. Un des journalistes qualifie cette interpellation comme entrave à la liberté de la presse. Dans son communiqué, journaliste en danger, JED parle des 3 journalistes blessés lors d'une interposition de la police contre les manifestants. JED affirme que la police a utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants devant l'entrée du bureau du gouverneur. Les mouvements citoyens ont manifesté contre la présence des forces de l'EAC qu'ils jugent complices de M23 et ils s'opposent à l'entrée des forces sud-soudanaises. Les manifestants exigent l'action offensive de la part des FRDC.
En plus bref, en Ituri, les activités socio-économiques sont restées paralysées ce mercredi à Bunia et dans les grandes agglomérations de l'intérieur de la province. C'est en réponse à l'appel des 3 journées ville morte décrétées par la coordination de la société civile. Cette structure citoyenne fustige la montée de l'insécurité dans cette province sous état de siège et où plus de 100 civils ont été tués en l'espace d'une semaine par des groupes armés. De son côté, le maire de la ville de Bunia brandit la menace de sceller toutes les maisons des commerces qui ont fermé leurs portes aujourd'hui. On reste en Ituri où la société civile de Walendutati dans le territoire de Djougou condamne ce qu'elle qualifie de tuerie des civils par des miliciens du groupe Zaïre. C'est confiant à la presse ce mercredi. Le président de cette structure citoyenne affirme qu'environ 50 personnes ont été massacrées en une semaine dans les localités centrales Soleniama, Abanga, Lita, Largou, Dat Toulé et Abanga. Désiré Maguga appelle les autorités militaires à contraindre la milice Zaïre à adhérer, elle aussi, au processus de paix en l'instar de la CODECO, du FPIC et du FRPI. Il a été joint par Martial Kizabiamungu.
Nous réaffirmons notre engagement sur le retour de la paix, cohésion sociale, cohabitation pacifique, la libre circulation de la population. Et recommandons ce qui suit aux groupes armés CODECO de ne plus céder aux provocations et s'abstenir à la violence, mais plutôt s'adhérer au P2DCS, aux groupes armés Zaïre par MAPI, de saisir l'opportunité d'adhérer au processus de paix et cesser les provocations et des tueries de civils. Au gouvernement provincial de l'état de siège, de traquer tous les groupes armés réfracteurs au processus de paix, à la MONUSCO et à la FARDC, d'assurer la protection de la population civile à proie d'attaques cibles de massacres de la milice Zaïre bar MAPI et de l'IRDPC bar CODECO sans la discrimination.
Revenons ici à Kinshasa où des bandits d'Ikuluna ont encore envahi hier soir plusieurs maisons du quartier Congo sur l'arrêt Sakombi dans la commune de Ngaliema. Sur place, ces malfrats ont emporté de l'argent, des postes téléviseurs et des réchauds. Pour mémoire, des altercations entre ces bandits avaient coûté la vie à un habitant l'année dernière. Un habitant victime de ce cambriolage. Mais le gouvernement central devant ses responsabilités, il a été joint par Priscille Kabuya.
Hier, il y a eu pillage dans deux maisons. On a pillé plus de 4 maisons. On a pillé chez les Kuluna. Et puis, le grand problème est que dans ces niveaux du quartier, il n'y a pas un bureau de la police. On a exposé les problèmes chez les bourgmestres de la commune de Ngaliema, mais jusqu'à présent, qu'il n'y a pas un bureau du quartier ni un bureau de la police. Hier, l'incident a commencé vers 19h. Moi, j'étais présent. Et puis, les Kuluna se sont enfouis d'eux-mêmes vers 21h et puis il y a eu l'intervention de la police vers 23h. Mais des pillages, des marchés brûlés, des maisons pillées, ils ont pris des télévisions plasma, donc beaucoup de télévisions plasma, des congélateurs, des chaises en plastique, des réchauds, ils ont pris des cafetières avec une somme d'argent importante.
Notez que l'installation d'un poste de police qui avait été promise par les autorités se fait toujours attendre. Autre nouvelle sur Radio Okapi, à moins de 3 semaines de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit satisfait du niveau des préparatifs. Il a dit hier lors de la visite du site de Ndolo où sera dite la messe papale. Il a également échangé à l'occasion avec l'équipe qui y travaille nuit et jour pour la réussite de l'événement. L'archevêque de Kinshasa invite la communauté chrétienne à bien accueillir le souverain pontife Fridolin Ambongo au micro de Jeff Ngoy.
C'est la première fois que j'arrive ici pour visiter le site. Et il était important pour moi de venir visiter parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à Rome, j'étais avec le Saint-Père, je lui ai garanti que tout allait bien, le préparatif était au point, mais je voulais quand même m'assurer si ce que j'avais dit au Saint-Père correspondait à la réalité. Je suis venu aujourd'hui, j'ai vu et je peux dire que nous sommes dans le bon. Avec l'équipe qui est là, hyper motivée et qui nous rassure que d'ici le 25, tout sera terminé, je crois que nous serons dans les délais. Je suis vraiment rempli de joie. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Ce que nous attendons des fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur, entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer.
Dans l'actualité, il y a également l'amélioration des conditions des voyages sur la route qui va de Mbujimayi à Boya, une route longue de 55 km. Depuis l'arrivée à Mbujimayi, des bus de la Société de Transport du Congo, Transco, plusieurs habitants payent la somme de 5000 francs congolais pour le voyage à bord de ces bus, abandonnant ainsi les motos qui leur coûtent 12 500 francs congolais la course. Pour en parler, retrouvons à Mbujimayi Esther Ndalafina.
Quitter actuellement Mbujimayi pour se rendre dans les localités de Miabi Boya dans les territoires de Miabi devient un voyage de luxe à petit prix. Les voyageurs payent désormais 5000 francs sur le bus au lieu de 12 500 francs congolais qu'ils disponibilisaient pour les motocyclettes. Témoignage. C'est bien maintenant parce que nous payons moins cher. Sur la moto, on payait 12 500. Maintenant, c'est 5000 qu'on paye aller, 5000 retours. Nous avons la joie. Autre fait relevé, c'est la sécurité et le confort. L'amélioration des conditions, oui, cependant, une fausse note reste la surcharge, d'après les voyageurs. Nous sommes à l'aise dans le bus, nous sommes bien assis, mais nous demandons au gouvernement qui nous a donné le bus de multiplier le nombre de bus, parce que sur la route, il y a beaucoup de gens, et lorsqu'ils montent dans les véhicules, il y a ceux qui sont debout dans les mauvaises conditions. Nous voyons qu'il y a 47 sièges, mais les gens qui entrent sont plus de 100.
Au niveau de Transco, on estime qu'il n'y a pas surcharge. Ils transportent en fonction des places assises et debout.
Signalons que l'ouverture par Transco de la ligne Mbujimayi-Boya, quelques bus avaient essuyé les jets de pierre de certains motocyclistes qui déploraient leur renvoi au chômage forcé. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Justice à présent. Le Conseil supérieur de la magistrature va procéder bientôt à une nouvelle mise en place générale des magistrats sur l'ensemble du territoire national. Cette annonce fait suite à la carence des magistrats et leur absence dans plusieurs coins du pays, notamment dans la province de Maïndombe. N'est-ce pas, Jeff Ngoy?
Effectivement, à propos justement de l'absence des magistrats dans le Maïndombe, dont se plaignent les avocats, le Conseil supérieur de la magistrature rappelle qu'à la suite du lynchage dont avait été victime l'ancien procureur général du Maïndombe, depuis une année, son assemblée générale avait décidé de ne pas seulement colmater quelques brèches, mais de faire une mise en place générale des magistrats dans toutes les juridictions du pays. La carence des magistrats est constatée partout au pays, et le récent recrutement de 5000 nouveaux est venu combler cette carence. La nouvelle mise en place est en cours d'examen et n'attendait que le nouveau budget de 2023 qui vient d'entrer en vigueur. Puis il faudra tenir compte aussi de la sécurité des magistrats qui seront déployés en province. Cette question de sécurité a été soulevée et le ministère de l'Intérieur en a été saisi selon le CES.
Actualité internationale.
En Gambie, le vice-président de la République, Badara Aliyeu, est décédé ce mercredi en Inde de suite d'une courte maladie. Le président de la République, Adama Barrow, l'avait désigné à ce poste en 2022 après avoir été réélu en 2021 pour un second mandat. Il a été précédemment ministre de l'enseignement supérieur. En juin dernier, Badara Aliyeu, Diouf, a exprimé son ras-le-bol sur la conduite des affaires politiques au pays, affirmant que les Gambiens avaient des grandes attentes et que le statu quo ne conduirait pas à un changement décisif. En Israël, pendant ces temps, la Cour suprême a invalidé ce mercredi matin la nomination par le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou du ministre de l'Intérieur Aryeh Deri, et qui avait été reconnu coupable de fraude fiscale. Dans un communiqué publié ce matin, la haute cour du pays a fait remarquer que la nomination du député Aryeh Deri au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé publique ne peut être validée. Et puis, le président russe Vladimir Poutine a assuré ce mercredi n'avoir aucun doute que sur une victoire de son pays sur les territoires ukrainiens. Notez cependant que Moscou a essuyé d'importants revers militaires selon l'agence France-Presse.
L'invité.
Notre invité, c'est Gratien Yeratian. Ce député national, qui est en vacances parlementaires dans l'est du pays, demande aux habitants de s'enrôler massivement. L'élu de la ville de Bounia appelle la CENI également à corriger les erreurs enregistrées à l'ouest du pays lors de l'enrôlement des électeurs à l'est du pays. Il s'entretient avec Denise Loukesso.
Gratien Yeratian, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Dans le cadre de vos vacances parlementaires, vous avez eu beaucoup d'activités dans le Nord Kivu. On peut savoir d'abord de quoi s'agissait-il?
Nous avons chaque fois saisi l'occasion pour parler avec les membres des communautés, les jeunes, tout simplement à les inviter à adhérer au processus électoral. Et nous avons aussi restitué nos activités de vacances parlementaires, en plus d'un appel patriotique que nous leur lançons pour que le pays puisse vivre dans sa dignité, et aussi pour que le développement puisse enfin être lancé. Nous avons d'abord demandé à tous les Congolais de pouvoir s'enrôler massivement. Nous leur avons demandé aussi de s'approprier les processus électoraux. Ça veut dire qu'ils doivent s'enrôler jusqu'à aller voter massivement s'ils veulent le changement. Et nous leur avons demandé surtout de rester au niveau des bureaux de vote jusqu'à obtenir les PV de tout ce qui est fait comme vote. Parce que nous pensons que cette fois-ci, nous ne voulons pas de tricherie et donc la population chaque fois dit que voilà, nous allons voter et que nos voix seront utilisées autrement. Mais pour nous, nous avons pensé qu'il faut leur demander aujourd'hui de voter et de rester au centre de vote, dans les différents bureaux de vote, pour obtenir les PV qui permettra à ce que nous puissions avoir des éléments matériels au cas où il y a contestation et que surtout la volonté de la population soit exprimée.
Au regard de la situation sécuritaire qui traverse les provinces de l'Est, notamment le Nord Kivu et l'Ituri, est-il possible, sachant que certaines zones sont toujours sous occupation des rebelles?
Nous sommes en train d'espérer que les enrôlements ou même le vote aura bel et bien lié, même dans les zones sous occupation. Et nous sommes en train d'espérer qu'il y aura un processus qui va évoluer, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'implication de la communauté internationale pour la résolution pacifique de ce qui se passe à l'Est, ça nous encourage quand même à espérer. Mais ça ne doit pas nous décourager, parce que la solution à court terme, même je dirais, ou à moyen terme, pour bien gérer la RDC, c'est plutôt avoir des dirigeants qui représentent vraiment les points de vue de la population, donc qui représentent la vérité des urnes. Donc c'est très important que ces processus se déroulent. Bien sûr, nous sommes inquiets parce que aujourd'hui, avec l'état de siège dans les deux provinces, on se demande est-ce qu'il y aura élection, il y aura pas élection dans ces zones. Bon, mais nous avons quand même foi. Nous espérons que le président de la République, qui nous a promis, nous, élus des Nord Kivu et de l'Ituri, qu'avec ou sans état des sièges, il y aura vote à Ituri et au Nord Kivu. Espérons que ces paroles seront tenues. Mais nous sommes aussi inquiets parce que nous avons vu déjà la zone est où l'enrôlement ne marche pas bien. Vous savez ce qui se passe. Les matériels sont défectués. Au lieu que la CENI puisse chercher à corriger le problème, mais la CENI prend la défensive. Et là, ça nous inquiète sérieusement parce que au moins la CENI devrait tirer la leçon de cette première zone, de cette première expérience, pour que la deuxième zone soit bien opérationnelle plus que la première et qu'au niveau de la troisième zone qui est l'est de la République, qui a assez souffert, puisse avoir un accès facile à tous les matériels, afin que la population puisse s'enrôler massivement. Donc, nous pensons qu'il y aura enrôlement effectif ici à l'est, mais aussi les élections à 2023, à la fin de l'année.
Vous avez rencontré certaines communautés locales à qui vous demandez leur implication. Qu'est-ce que vous attendez de ces communautés?
Nous voulons ainsi que ces communautés sensibilisent et persuadent les citoyens de pouvoir s'enrôler, parce qu'il y a toujours des résistances. Je pense que les leaders doivent aller vers la population pour convaincre ces populations-là, ces membres des communautés, de pouvoir s'enrôler d'abord, parce que sans enrôlement, on ne peut pas voter, et de pouvoir voter. Donc, il y a cette crainte qui existe, une crainte qui est permanente, mais aussi nous sommes en train de sensibiliser les leaders à pouvoir laisser la population libre s'exprimer. Donc vous trouvez dans tel territoire, il n'y a que tel leader, si ce n'est pas lui, personne ne peut décider. Est-ce qu'il faut-il que la communauté puisse toujours accepter de rester avec ses leaders? Non, il faut qu'il y ait maintenant des jeunes leaders qui peuvent contrebalancer, des leaders émergents qui peuvent renverser la tendance pour que la population soit libre de s'exprimer.
Voilà, honorable Gracien Irachan, Radio Kapi, vous remercie.
Je vous remercie aussi.
C'était l'invité de Radio Kapi, le député national Gracien Irachan a été interviewé à Goma par Denise Lukeso. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rung Mouchige. La suite d'Okapi Soir avec vous, Julie Ngala.